dernière, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dedans? C'est très intéressant. Pas de lettres de la part d'un ami. Pas de publicité pour un supermarché du coin. Même pas de facture de téléphone. En ouvrant la petite porte et en regardant à l'intérieur, j'ai trouvé deux petits paquets de préservatifs qui avaient été déposés là par une mutuelle étudiante. Alors, ça ne me surprend pas en fait. Le dessin sur le paquet qui représente 12 couples hétérosexuels et homosexuels dans 12 positions sexuelles différentes ne me surprend pas. La perversion de la sexualité dans notre société ne me surprend pas. Et j'imagine que vous n'êtes pas surpris non plus. Et j'ai ce paquet, je vais garder un peu de distance parce que ce n'est pas très édifiant ce qui se passe sur ce paquet. Mais ouais, je vais remettre ça dans la poche. Ok. La sexualité est tout à fait normale. Et dans un monde déchu et rempli de péchés, on s'attend à ce qu'il y ait des perversions sexuelles. Il est intéressant de noter que la Bible et notre société française sont d'accord sur deux choses concernant la sexualité. La sexualité est une chose normale, on est d'accord, et la sexualité est une bonne chose aussi, on est d'accord. Mais il y a deux choses concernant la sexualité sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et ça, c'est la question de quand et la question d'avec qui. Donc, ce week-end, nous voulons étudier ce que la Bible dit sur la sexualité. Je veux répondre spécifiquement à ces deux questions aujourd'hui. Et pour cet exposé, je veux étudier ce que dit Genèse chapitre 2. Donc, vous pouvez trouver ce texte, Genèse 2, versets 18 à 25. Pour répondre à la question de quand la sexualité est permise ou permise et avec qui elle est permise. Je pense que ce texte est une très bonne base pour comprendre. Je sais qu'Alex et Jonathan vont parler un peu plus de certaines choses aussi, mais on peut commencer par Genèse 2. C'est un très bon endroit pour comprendre le mariage et tout ça. Donc je vais souligner quatre choses qui nous concernent dans ce texte et puis je veux répondre à quatre objections soulevées par le monde au niveau de ce que la Bible dit. Donc on va lire maintenant Genèse 2, 18 à 25. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte pour moi? S'il vous plaît.
Je veux bien.
Merci, Jean-Marc.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte.
Merci, Jonathan. On a l'impression, en lisant ce texte, que Dieu a oublié un détail essentiel. On peut imaginer que Dieu se dit, tout à l'heure, j'ai pensé à créer des animaux en couple, mais j'ai oublié de donner un partenaire à ma créature la plus importante. Le texte nous dit que Adam ne trouve pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Et donc on a l'impression que Dieu est obligé de remédier à ce problème. Mais si on regarde le texte un peu plus attentivement, on découvre que le récit est écrit de façon à nous faire comprendre l'importance d'Ève et le rapport intime qu'il a relié à Adam. Le texte veut nous montrer clairement qu'il n'est pas censé être seul. Adam n'est pas être censé seul. Et qu'aucune autre créature n'est compatible avec lui. Dans Genèse 1, le texte dit simplement que Dieu a créé l'homme et la femme. Dans Genèse 2, par contre, le texte attire notre attention sur l'absence de la femme et sur le fait que son absence n'est pas normale. C'est pas normal dans le monde que Dieu a créé. Dans un certain sens, le texte nous montre l'absurdité de l'absence de la femme. L'absence de la femme est comme un livre sans texte, c'est comme une bouteille sans vin, c'est comme le monde sans les Américains. Ce n'est pas logique, c'est pas possible. Donc, on voit ça dans le texte. L'homme. Désolé. Ouais. L'homme n'est pas fait pour rester seul. Ça, c'est quelque chose de très important dans ce texte. Il n'est pas fait pour rester seul. Alors, le deuxième point. L'homme est sexuellement compatible avec la femme. Le récit au verset 18 à 20 nous montre l'incompatibilité relationnelle et sexuelle entre toutes les autres créatures et Adam. Et la science confirme le fait qu'il y a des différences entre les espèces, n'est-ce pas? On ne peut pas faire croisement entre un homme et un singe ou entre une femme et un truc. Nemo, l'os de mes os, la chair de ma chair, nous montre une deuxième fois le lien intime qu'il y a entre Adam et Ève. Le langage de verset 24 est très fort aussi. L'homme s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. On voit dans ce texte un engagement émotionnel, un attachement sexuel, et une relation qui satisfait à tout point de vue. Ce que la Bible dit est opposé à ce que dit le monde dans cet endroit, dans ce domaine. Par exemple, il y a des gens qui trouvent que certains chiffres sont très sexy. J'ai lu l'histoire d'un homme qui a fait appel au jugement d'un tribunal pour obtenir l'autorisation d'épouser le numéro 7. Je plaisante pas, c'est une réalité. Il y a des gens qui ont des relations avec des animaux, par exemple, aussi. Certaines personnes sont amoureuses de grosses vaches, et je ne parle pas des femmes qui ressemblent à des vaches, mais des vraies vaches dans les champs. Okay. Il y a des gens qui sont attirés par des personnes du même sexe, comme on le voit sur le paquet de préservatifs. Et je sais que ça, c'est un débat maintenant aussi en France sur le mariage homosexuel. Mais Dieu ne nous a pas créés pour ces relations. L'homme est sexuellement compatible avec la femme. Troisième point. La sexualité entre l'homme et la femme est un don de Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu a créé la femme après qu'il a fait toutes les autres choses. Je pense qu'une des idées importantes dans ce texte, c'est que Ève est un don précieux de Dieu. Elle nous est présentée comme étant belle et désirable pour Adam. Elle est compatible avec Adam intellectuellement aussi. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, pour qu'ils se plaisent l'un à l'autre dans chaque aspect de leur relation. Souvent, les chrétiens sont accusés d'être anti-sexe. Il est possible que cette idée soit née à cause de certaines pratiques catholiques, je ne sais pas, ou qu'elles proviennent de gens qui comprennent mal ce que dit la Bible sur le sujet. Malheureusement aussi, il y a certaines églises qui enseignent que le sexe est quelque chose de honteux, ou que le sexe n'existe que pour faire des enfants. Il y a des rumeurs selon lesquelles les chrétiens font l'amour seulement dans le noir et sans se déshabiller. Il y a beaucoup de choses comme ça dans notre société, mais ce n'est pas ça qu'on trouve dans l'Écriture. Il n'y avait pas de honte chez Adam et Ève dans ce texte. Ils ont reçu avec reconnaissance le don de la sexualité. Quatrième point. La sexualité d'un couple est exclusive et s'inscrit dans le cadre du mariage. En créant Adam et Ève, Dieu a créé un modèle pour le mariage et la sexualité. Notez bien que ce texte ne dit pas que Dieu a formé une femme pour donner du plaisir à Adam. Le texte ne dit pas que Dieu a créé plusieurs hommes qui étaient obligés de se partager une seule femme. Le texte ne dit pas que Dieu a formé des hommes et des femmes pour qu'ils aient des expériences sexuelles les uns avec les autres en vue de décider quelle serait leur préférence sexuelle. Ce n'est pas ce que le texte dit. Un engagement total et indéfectible est à la base du mariage. Dieu nous a créés avec des sexes différents pour le mariage. Et avec Adam et Ève, il nous montre ce qui est un modèle pour les hommes et les femmes. Le mariage est extrêmement important. Dans le cadre d'un mariage, un homme et une femme font des enfants, bien sûr. Ils s'encouragent et s'aident l'un l'autre. Ils fournissent une stabilité émotionnelle à leur foyer et un environnement où les enfants peuvent grandir sans être menacés par des relations destructrices. Les avantages sont immenses. J'ai lu récemment un livre historique sur les relations entre les rois, les reines et les maîtresses en Europe. Très intéressant. Selon ce livre, les reines n'existaient que pour engendrer un héritier pour le trône. La maîtresse, par contre, était la partenaire sexuelle du roi, avec qui il passait la plupart de son temps, auprès de qui il se confiait, à qui il donnait ses meilleures possessions et sans qui il ne pouvait pas vivre. Ce n'est pas biblique cette idée, mais un roi en particulier a décrit sa maîtresse comme étant une boisson désaltérante avec un corps parfait, une grande vivacité d'esprit. Par contre, sa femme, la reine, il a décrite comme étant une grosse valkyrie consanguine et boutonneuse. C'est un peu drôle peut-être, mais c'est horrible cette attitude contre sa femme. La relation entre l'homme et sa femme est une relation sacrée. Il n'y a pas de place pour une tierce personne dans cette relation. Alors, j'espère donc que ce texte en Genèse vous a aidé de voir les réponses à nos deux questions. La question avec qui est-ce qu'on fait l'amour, avec son mari ou sa femme, ou quand est-ce qu'on fait l'amour une fois marié. La Bible interdit clairement la sexualité avant un mariage, ce qu'on appelle la fornication, et elle interdit clairement la sexualité avec quelqu'un d'autre que sa femme ou son mari, ce qu'on appelle l'adultère. Je sais qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps sur ce texte, mais je veux soulever aussi quelques objections possibles à ces deux affirmations et y répondre. Premièrement, beaucoup de gens disent ceci. Dans notre société, le sexe est agréable, donc pourquoi ne pas faire quand on veut et avec qui on veut? Je ne vais pas répéter ce que la Bible dit déjà clairement sur ce sujet, on a discuté ça, mais derrière les prescriptions de Dieu, il y a des raisons pratiques. En tant que chrétien, on a pour but d'honorer notre Dieu. On a pour but d'honorer notre Seigneur à travers nos actions et à travers nos pensées. Ok, ça c'est très important. La fornication n'honore pas Dieu. Et ça contredit sa loi. Mais même d'un point de vue purement scientifique, il y a des risques et des conséquences liées à ce genre de comportement. Et je ne parle pas seulement des maladies vénériennes. Ça, vous savez déjà. Il y a des risques là, bien sûr. Mais aussi, je parle des blessures psychologiques dont souffrent les gens quand il y a une relation sexuelle sans engagement. Ça, c'est une réalité. La fornication, c'est du plaisir sans engagement. Et c'est cet engagement qui est censé protéger le couple et sûrement la femme dans la relation. On s'attache très fort à la première personne avec qui on fait l'amour. Ça, c'est une fête. Scientifiquement, ils ont fait des recherches sur ces choses. Donc, on ne doit pas prendre cet acte à la légère. Ce n'est pas un acte ni un souvenir qu'on ne peut facilement effacer de sa vie. La deuxième chose que le monde dit, c'est que l'expérience de la sexualité nous prépare pour le mariage. La fornication nous prépare pour le mariage. On devrait faire l'amour avec son partenaire avant le mariage pour être sûr qu'on est compatible sexuellement. J'ai deux choses simples et pratiques à dire par rapport à ça. D'abord, si vous êtes un homme ici, sachez aux surprises que vous êtes sexuellement compatible avec toutes les femmes du monde. Okay? Donc ça, ce n'est pas une question. Si vous êtes une femme, c'est pareil, vous êtes compatible avec tous les hommes du monde. Voilà. Peut-être que ça c'est trop simpliste pour vous, mais voilà, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez compatibles au niveau de vos valeurs et au niveau des émotions, au niveau intellectuel, spirituel, toutes ces choses. La compatibilité sexuelle n'est pas vraiment un problème. Par contre, l'épanouissement sexuel dans le cadre du mariage découle directement de la qualité de votre relation intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, des choses comme ça. Ça, c'est très important. Ensuite, je connais des gens qui couchent avec beaucoup de partenaires différents, disant que comme ça, ils pourraient trouver le meilleur partenaire avec qui se marier. Ça, c'est honteux, en mon avis. Parce que ça ne respecte pas les partenaires en question. Par ailleurs, la sexualité dans le mariage, ça change aussi. On ne peut pas baser le mariage sur quelque chose qu'on a fait aujourd'hui. Vous comprenez? Et si on n'est pas satisfait... j'ai perdu mon place. Ah oui, c'est quel... désolé. Ce qu'elle est aujourd'hui, ouais, c'est ça. Ce qu'elle est aujourd'hui n'indique pas ce qu'elle sera demain. Ok, ça c'est important de comprendre. Il n'y a aucun avantage, à mon avis, à coucher avec quelqu'un avant de se marier. Troisièmement, les gens disent que si on n'est pas satisfait une fois marié, on peut aller voir ailleurs. Mais cette idée aussi porte atteinte au sens même du mariage, qu'on a vu en Genèse 2. Le mariage, c'est beaucoup plus que la sexualité. Et si on n'est pas satisfait sexuellement avec sa femme ou avec son mari, c'est l'indication, je pense, qu'il y a d'autres problèmes dans son mariage. Selon la Bible, un adultère est grave parce que ça contredit un serment solennel. L'infidélité dans un mariage est une solution, à mon avis, trop simple à des problèmes trop compliqués, très compliqués. Ça blesse son époux, son épouse, ça brise la stabilité de la maison, ça détruit des enfants, ça déshonore Dieu, le Dieu qui nous a rachetés. Donc c'est grave ça. Enfin, la quatrième chose, le monde dit... c'est que si on est fidèle envers son partenaire, il n'y a pas de problème à avoir des relations sexuelles. Le mariage peut attendre. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à cette objection sur la fornication, mais je vais ajouter une chose. C'est que l'engagement d'un mariage est la seule protection durable pour un couple. Okay, le monde fonde l'engagement sur l'amour. Le monde pense que le fait de s'aimer est une sécurité suffisante qui garantit la stabilité, la fidélité et la durabilité du couple. Mais moi, en tant que chrétien, qui parle à d'autres chrétiens, je vous exhorte plutôt à fonder l'amour sur l'engagement. C'est l'autre sens pour les chrétiens. On commence par l'engagement. Parce que l'amour, c'est quelque chose de subjectif aussi. Ça change. Je vais confesser, même en ma vie, j'ai des jours difficiles avec Amy. C'est comme ça dans les couples. On a des jours difficiles, des semaines difficiles peut-être. Donc l'amour, c'est quelque chose de vraiment subjectif. Il faut baser cet amour sur quelque chose de plus stable, l'engagement, le mariage. Un mariage qui dure nécessite d'abord cet attachement total, exclusif et solennel. Alors je termine en disant que le problème de la fornication et de l'adultère dans notre monde, c'est que trop souvent, et c'est peut-être un peu cru, trop souvent les femmes réfléchissent avec leur cœur et les hommes avec leurs organes génitaux. C'est une réalité, désolé, c'est une réalité. Mais qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'on est des créatures déchues, notre but inné, c'est de nous honorer, nous-mêmes, et de suivre nos propres désirs. Mais la solution à ce problème consiste à réfléchir aux surprises avec la tête, okay? Avec notre esprit, à réfléchir bibliquement et à garder la croix de Jésus-Christ au centre de notre vie. Par Christ, Dieu sanctifie notre vie, ce qui inclut la sexualité. J'arrête là.